Jean-Claude William, bonjour.
Bonjour Victor Montlibonner, bonjour tous les auditeurs et internautes.
Vous êtes professeur émérite
de sciences politiques.
Et vous êtes également président honoraire de l'Université Antilles-Guyane.
Oui, tout à fait, c'est exact.
Vous pouvez nous dire ce que représentent ces deux qualificatifs ?
Eh bien, le premier, professeur émérite de sciences politiques, ça veut dire que je suis un professeur à la retraite, émérite. Et puis, de sciences politiques, eh bien, c'est ma spécialité universitaire. La science politique est une science carrefour. C'est une science relativement neuve, à vrai dire, et qui a pour objet d'étudier les rapports de pouvoir au sein des collectivités humaines. Alors évidemment, bien sûr, au sein de l'État, mais aussi au sein de la famille, au sein des associations, au sein des sociétés. Et je dis que c'est une science carrefour parce qu'en réalité, c'est une science qui emprunte beaucoup à la sociologie, parfois à l'anthropologie, mais aussi au droit public en particulier.
Vous avez été aussi président de l'Université Antilles-Guyane, il faut le préciser. Cela a duré combien de temps et quelle a été, s'il fallait retenir une idée, ce que vous avez, vous, tenu à mettre en avant à votre époque ?
Eh bien, écoutez, j'ai été président pendant 5 ans, c'est la durée normale d'une présidence universitaire, avec cette particularité qu'on n'a pas le droit de se représenter immédiatement. Et puis, alors ce que j'ai fait, à mon avis, j'ai essayé de faire deux choses. J'ai hérité d'une université qui était en pleine crise de croissance, et sans chercher la polémique, il faut dire tranquillement que mes prédécesseurs n'avaient pas vu arriver l'affaire. On est passé de 5 000, 6 000 étudiants à 13 000 étudiants en 5 ans, et bon, aucune disposition n'avait été prise pour faire face à cet accroissement tout à fait inattendu. Alors par conséquent, j'ai dû ramer auprès du ministère à Paris pour qu'ils comprennent qu'il y avait une situation d'exception et que, à situation d'exception, solution exceptionnelle. C'était pas facile, car nos interlocuteurs étaient du même calibre que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'outre-mer, c'est bien, c'est intéressant, on s'en revendique, on s'en réclame, mais en réalité, on ne fait pas ce qu'il faut y faire. Alors ça, c'était ma première tâche difficile, qui faisait que j'allais très souvent à Paris, et avec en face de moi des interlocuteurs tout à fait sourds. Mais comme le ciel homme têtu, ça avançait quand même. Et puis l'autre chose que j'ai faite, et que j'ai un peu réussi, je crois, c'est que j'ai trouvé une université dans laquelle la coopération caribéenne était présente. Mais elle était présente théoriquement. C'est-à-dire que l'un de mes prédécesseurs, Jacques Adélie de Murland, à qui il faut rendre hommage, avait passé des conventions de coopération avec quasiment toutes les universités de la Caraïbe et d'Amérique latine. À ceci près qu'aucune de ces conventions ne vivait. Et par conséquent, j'ai décidé de leur donner vie. Et j'ai activement participé à l'Association des universités de la Caraïbe. Et j'ai décidé que j'allais privilégier la coopération, en particulier avec Haïti. Et ça a été vraiment une affaire importante. Nous avons vraiment beaucoup aidé Haïti, concrètement, matériellement. Et puis l'autre chose que j'ai faite, et finalement le temps montre que j'ai échoué, c'était de prendre en compte la Guyane, qui avait été complètement délaissée, il faut bien le dire par les uns par les autres. On donnait aux Guyanais, on les nourrissait de belles paroles, sans jamais faire les choses qu'il fallait faire. Sitôt ma prise de fonction, j'ai indiqué que d'après moi, la Guyane avait vocation à ouvrir son université, très clairement, mais que cela se préparait. Et que j'ai proposé par conséquent un calendrier de travail qui aboutirait à la création de l'université guyanaise, mais en collaboration avec les Antilles, et aussi, puisque les Guyanais s'en réclamaient, avec l'Amérique latine. Et bon, tout le monde m'a dit oui, c'est une très bonne idée, c'est excellent. Et puis rien ne s'est fait. Et quand je suis parti, eh bien l'espèce d'indifférence vis-à-vis de la Guyane a repris, alors que moi j'allais en Guyane quasiment, enfin plusieurs fois par mois même souvent. Et j'incitais beaucoup mes collègues à aller faire des cours en Guyane, à aller corriger des examens, à faire des choses tout à fait inhabituelles, pour eux, enfin, qui n'avaient pas l'habitude de faire et qu'ils rechignaient à faire pour certains. Et puis, une fois que j'étais parti, bien, on est retombé dans cette espèce de laisser-aller général. Les Guyanais ont fonctionné aussi, mais assez bizarre. Un coup, ils voulaient leur université, un coup, ils tenaient absolument à l'unité. Et puis, bon, de fil en aiguille, les choses se sont faites. Elles auraient dû se faire, c'est vrai. Mais elles se sont faites dans de mauvaises conditions, dans la précipitation, et aujourd'hui avec une coopération qui existe sur le papier, mais qui n'existe pas vraiment. La Guyane, c'est une de mes tristesses, un de mes regrets. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, Jean-Claude William, toutes ces questions ne sont pas innocentes, puisqu'en réalité, vous avez tenu conférence pour les anciens élèves de l'école normale, et le thème de cette intervention que vous avez eue, devant un parterre d'anciens élèves de cette école, très nombreux d'ailleurs, plus d'une centaine de personnes, c'était de savoir quelle école il fallait pour la Martinique. Et vous avez, vous, travaillé de manière assez particulière. Vous avez d'abord fait un tour sur ce qu'était l'école d'hier, et vous avez aussi généreusement pensé à ce que devait être l'école demain à la Martinique. Alors, on va pas vous redemander de faire la conférence parce qu'elle était relativement longue, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le trajet de l'école à la Martinique ?
Alors, je crois que le trajet de l'école à la Martinique est tout à fait associé à l'état de la société à un moment donné. L'école est le reflet de ce qu'est la société. Elle peut d'ailleurs aussi, parfois, devancer la société. Hein. Il y a un marxiste italien qui s'appelle Antonio Gramsci, qui explique très bien cela. L'école, c'est ce qu'il appelle une superstructure. Et la superstructure, dit-il, est le reflet de l'organisation économique de la société. Et par conséquent, donc, elle indique ce qu'est la société globalement à un moment donné. Mais il peut arriver que la superstructure prenne son envol toute seule. Et par conséquent, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la superstructure. Mais finalement, la superstructure ne peut pas rester éternellement autonome. Elle est évidemment rattrapée par l'organisation économique et sociale. Bien. Alors, c'est à travers ce prisme-là que j'ai essayé d'aborder la question de l'école en Martinique, en indiquant qu'en plus, donc, il y a ce phénomène, l'école est le reflet de la société, mais que chez nous, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a ce que j'appelle, moi, le brouillage. Ce que l'on croit être le vrai n'est pas forcément le vrai, n'est pas l'immédiatement perceptible, ne correspond pas nécessairement à la réalité, de manière plus compliquée peut-être, mais plus proche du vrai, ça correspond à une partie de la réalité, la partie la plus visible de la réalité. Et si on veut comprendre ce qui se passe, il faut évidemment analyser ce que l'on voit, mais il faut aussi analyser ce qu'on ne voit pas, mais qui existe, et qui parfois est essentiel.
Et cette chose qu'on ne voit pas, c'est quoi, Jean-Claude William ?
Cette chose qu'on ne voit pas, c'est que nous sommes dans un pays de paradoxe, et que l'école montre bien le paradoxe de cette société. Les premiers temps, l'école d'hier, moi je soutiens qu'elle illustre le paradoxe. D'une part, elle est le véhicule, le vecteur de l'assimilation, et en même temps, elle est aussi l'un des facteurs de l'émancipation. C'est quand même bizarre, quoi. On a à la fois, en même temps, on voit fonctionner en même temps l'assimilation, donc on est français, et en même temps, on se libère, d'une certaine manière, de l'emprise française. Alors, l'assimilation, c'est pas la peine d'y insister, hein, bien que moi, j'appartiens à la génération des gens qui ont appris que mes ancêtres étaient des gaulois aux yeux bleus. Il était une sorte de sornette de ce type-là. Mais c'était, et aussi le fait que, bien sûr, le créole, par exemple, était complètement prohibé. Et on a tendance à critiquer les parents qui interdisaient l'usage du créole. Je crois que c'est une mauvaise appréciation des choses. Ils avaient raison. Ils avaient évidemment raison parce que le souhait que tous les parents, tous les vrais parents avaient, c'est que leurs enfants, ils ont encore, c'est que leurs enfants aient une vie meilleure que la leur. Et pour avoir une vie meilleure que la leur, il fallait maîtriser le français. Il fallait échapper au champ de Cannes à tout prix. Et échapper au champ de Cannes, c'était parler bien français. Et parler bien français, dans leur idée, mais c'était aussi assez vrai, c'était oublier le créole. parce que sinon, on croit parler français, mais il y a beaucoup de créolisme et on ne parle pas un français impeccable.
Donc en fait, Jean-Claude Williams, ce que vous dites, c'était que l'école était à la fois émancipatrice, mais en même temps assimilationniste. Alors, comment cette école a pourtant fait émerger un certain nombre de libertés, c'est l'expression que vous aviez proposée, puisque cette école émancipatrice permettait, quoi qu'on dise, de sortir du champ de Cannes.
Mais tout à fait, bien sûr. Et c'est, alors, en partie grâce à un phénomène important, c'est le fait que, précisément, la volonté assimilationniste a conduit les responsables politiques de l'époque, il y avait un conseil général à l'époque, et à la tête duquel se sont trouvés assez longtemps des mulâtres, qui étaient très assimilationnistes, qui voulaient absolument être les égaux des Français, et qui ont diffusé cela. Et ils l'ont diffusé tellement qu'ils voulaient que l'école soit, comme en France, laïque et gratuite. Et à partir de là, eh bien, il y a un certain nombre de jeunes gens, de jeunes filles, de milieux modestes, qui ont pu sortir du lot, grâce aussi au fait que la colonie, car c'était son nom, la colonie a été relativement généreuse dans l'attribution des bourses. Évidemment, pour les gens pauvres, c'était une aubaine. Et c'est ainsi qu'on a vu, à partir du début du XXe siècle, on a vu apparaître un certain nombre, surtout vers 1920, on a vu apparaître un certain nombre de jeunes Martiniquais, alors davantage de garçons que de filles, évidemment, à l'époque, qui allaient en France faire des études, et c'est ainsi qu'ils sont apparus les premiers grands noms que nous connaissions, Pierre Aliker, René Ménil, Aimé Césaire, tous ces gens-là sont les produits de l'école, et précisément, pour beaucoup d'entre eux, pour les trois que j'ai nommés, c'est l'école qui leur a donné les moyens intellectuels de critiquer la société coloniale de laquelle ils étaient pourtant issus. Et c'est en cela que l'école, de mon point de vue, était aussi émancipatrice.
Très bien, ben écoutez, Jean-Claude Williams, vous voyez que c'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant des heures sur cette question. Le temps qui nous est donné nous est compté en même temps, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans votre rendez-vous, qui sur ces deux semaines ne seront pas des points de vue politiques, comme des billets politiques, comme vous avez l'habitude de le faire, mais qui seront des points d'histoire. Merci Jean-Claude Williams.
Très volontiers, merci beaucoup. Merci.